4 euros.
Service, s'il vous plaît, on enlève un cabillaud pouce d'épinards.
Europe 1.
Et une cuisse de volaille, s'il vous plaît.
11h30, la table des bons vivants, Laurent Bariotte.
Bien le bonjour les amis, nous voilà heureux, tiens, comme chaque samedi de vous retrouver avec ma bande. Les températures sont basses, hein, alors comptez sur nous pour vous réchauffer. On va se mettre à l'heure du petit déjeuner ce matin avec un dossier spécial, le breakfast. Comment le petit déj a-t-il évolué au cours des années? Comment l'industrie en a fait un repas essentiel? On va casser la croûte, vous allez entendre. Voici mes bons vivants du jour. Vous la lisez dans le journal du dimanche, vous l'écoutez dans la table des bons vivants. Elle va nous vanter les vertus du chanvre en cuisine ce samedi. Bonjour, oui. Charlotte Langrand.
Bonjour, il faut bien commencer l'année.
Ah, dites donc, oui, le chanvre, on sait que c'est un cousin du cannabis. Hein.
On va se détendre.
J'en dis pas plus, on va être apaisé. Le vin, est-ce qu'il y a de plus civilisé au monde, disait le grand Hemingway. Il est d'accord. Et justement, il va nous parler d'accord. C'est Olivier Pouls. Bonjour Olivier.
Bonjour tout le monde, bonjour les amis.
Et bonne année les amis, parce que...
On peut se le redire.
Vous n'étiez pas là la semaine dernière.
Ah ben, c'est vrai.
Mais oui,
c'est vrai.
C'était je nous souhaite
Yves Condebord et Ophélie.
Le retour des restos et de grandes tablées d'amis retrouvés.
Absolument.
On pense bon, si à... on a déjà ça, on sera content.
Ah oui.
Ouais, et on pense et à tous santé. Les artisans, à tous les maraîchers et puis à tous les restaurateurs qui souffrent évidemment. Et nous sommes avec vous. Et nous partagerons un beau plat de gnocchi avec Hélène Segarra, sans oublier évidemment nos balades sur les marchés et chez les artisans, on en parlait. Alors, tiens, première question, c'est notre rituel. Quel est votre goût de la semaine, chers amis? Est-ce que c'est le goût des bonnes résolutions, tiens, Charlotte?
Mais alors, moi, je n'ose en faire, là, je dois vous dire. Donc, je vais me ranger dans l'avis du professeur David Kayat, qui vient de sortir un livre pour nous déculpabiliser en matière d'injonctions alimentaires, de ce qu'il faut faire ou pas faire, etc. Donc, je vais prendre la bonne résolution, très prudente, de ne plus culpabiliser et de me faire plaisir à table sans forcément penser aux conséquences éventuelles sur la santé, de rester dans la modération, mais me faire plaisir pour de vrai.
Ne vous privez de rien, dit le docteur Kayat. Le professeur Kayat, on le recevra justement pour parler de son livre et de parler du plaisir.
Homme béni des dieux.
Votre goût de la semaine, Olivier, est-ce que c'est celui des bonnes résolutions?
Non, pas franchement. Je vais vous dire un truc. Avec l'année qu'on vient de passer, j'ai pas envie de faire de résolution. J'ai envie simplement de profiter, de croiser les doigts, évidemment, on le disait, pour qu'on puisse se retrouver tranquillement tous ensemble autour de belles tablées, mais aussi, surtout, de continuer plus que jamais à soutenir nos producteurs locaux. Ils ont besoin de nous. Et donc, si j'ai une résolution à prendre, eh bien, c'est de... Voilà, d'être derrière eux, de manger leurs produits et de les savourer et de ne me priver de rien.
C'est vrai qu'on avait tous pris cette bonne résolution pendant le premier confinement. Les habitudes ont un petit peu retombé. Faut la tenir. Voilà, faisons des courses autour de chez nous.
Et alors vous, est-ce que Dry January?
Non, pas cette année. J'ai essayé une fois. Ça m'a suffi. Écoutez,
bonne résolution. Non,
oui,
même
du beurre,
pas.
Beaucoup de beurre. Ah, si, ouais. Mon goût de la semaine, moi, c'est du beurre au lait cru, un vrai beurre qui s'appelle le beurre de Madame. C'est Olivier Rollinger qui sert ça dans son restaurant qui m'a fait découvrir ce beurre qui est fabriqué avec une race de vache qui s'appelle la Froment du Léon, qui a failli disparaître et qui était sauvegardée par des éleveurs du coin en Bretagne. C'est un beurre d'une richesse en matière grasse et en bêta-carotène. Il est jaune-orangé. Je me suis fait une tartine.
Ça change tout. Hein.
Je me suis fait un jambon beurre chez moi, pour vous dire la vérité. Un midi de cette semaine, c'était magnifique. Une belle baguette, un bon jambon blanc de Paris et un bon beurre. Eh bien, on est content.
Vous commencez bien l'année, mon ami.
Il me manquait les cornichons. Alors à propos de bonnes résolutions, tiens, Alice Foss s'est rendue au marché d'Aligre dans le 12e arrondissement pour vous demander, chers amis, vos bonnes résolutions. Tiens, est-ce que manger de saison est toujours votre priorité en 2021?
C'est décidé, je vais manger beaucoup mieux, plus de légumes et moins de soda, des trucs comme ça. C'est pourquoi j'ai pris beaucoup d'oranges à faire en jus.
Je mange beaucoup de légumes, des carottes, des pommes de terre, des poireaux pour faire le potage quand il fait froid.
Aujourd'hui, j'ai acheté les kakis et les clémentines et un saucisson sec. En cette saison, les oranges, ils sont magnifiques. C'est des saisons. Par contre, les fraises, c'est pas la saison.
Je vais prendre des litchis ici. Ouais, mets-moi un kilo.
Je voyais, il y a des artichauts qui m'ont l'air très sympathiques. Mais j'évite tout ce qui n'est pas de saison, en fait.
Allez, il y a du choix, il y a du plaisir, allez.
Bon, à bientôt, ma chérie. On embrasse bien ton fils pour moi.
Bah voilà. On l'embrasse aussi.
Voilà, ça c'est du soleil, ça c'est un concentré de soleil. On aime vous retrouver sur les marchés, vous le savez. Hein, tous les samedis, on débute l'émission avec un micro-trottoir partout en France. Ça fait du bien. Ils n'ont pas fermé les marchés et heureusement parce que c'est vraiment essentiel pour le coup. Là, hein.
Bah, les oranges, les kakis, les clémentines, cette belle couleur orange là comme ça qui nous fait
des
du
vitamines
bien
C.
Et qui réchauffe.
Et les litchis de nos dom-tom.
Absolument, le litchi branche. Alors ça c'est pas écolo parce qu'il arrive en avion pour être justement à point. Mais
et
quel bonheur. C'est autour de 20 euros le kilo.
Hein, c'est ça.
Donc, j'en ai acheté pour notre petite grignotte après l'émission, là, tout à l'heure. Ah. C'est bonbon. Hein, c'est un beau, on se fait un cadeau quand on achète des litchis.
Mais c'est bon.
Mais c'est très très bon, effectivement. Il y a aussi les kakis qui sont de saison, le kiwi de la Dour, hein, qu'on trouve encore, qui est un kiwi qu'on cultive
français.
Chez nous, qui est un kiwi français, et puis la clémentine corse. Et à propos de la clémentine corse, on vous emmène la récolter. C'est la fin de la saison sur l'île de Beauté et on va en faire des confitures. A tout de suite.
11h30 sur Europe 1, Laurent Mariotte vous accueille à la table des bons vivants.
Elles ont roulé sur les tables pendant les fêtes. Vous aimez les éplucher pour profiter de leur chair acidulée. C'est la fin de la saison de la clémentine corse. Alors les amis, profitons-en pour faire le plein de vitamine C. Charlotte Langrand, Olivier Pouls, est-ce que vous êtes des consommateurs de vitamine C?
Ah bah oui, oui, surtout.
Et de clémentine surtout.
De clémentine surtout, avec leurs petits cuverts reconnaissables, entre mille, et les petites feuilles toujours attachées à la peau, bien sûr, oui.
C'est vrai qu'elle était copiée par les Espagnols parce que maintenant les Espagnols sont malins, ils mettent des feuilles comme ça, ça crée la confusion.
Méfiez-vous des contrefaçons. C'est ça, hein. Mais elles n'ont pas le cuvert, les Espagnols.
Elle a un joli petit cuvert, la Corse.
Et puis surtout, elles n'ont pas le même goût. Elles ont moins de puissance de goût et moins de côté acidulé.
Et oui, et elles n'ont pas de cuvert parce qu'elles sont souvent passées dans des espèces de chambres pour les faire arriver à maturation un peu plus vite en fonction de la demande du marché, tandis que les Corses, elles sont récoltées à la main avec l'œil de l'agriculteur et donc c'est pour ça qu'elles ont une qualité comme ça, un petit peu acidulée.
Exactement, elle est moins sucrée, moins sucrée que l'espagnole. La récolte bat encore son plein dans la région jusqu'à la mi-janvier, c'est pas terminé. Elles sont arrivées plus tôt que d'habitude d'ailleurs, Olivier.
Bah oui, mais celles qui sont arrivées, c'était les petites. D'ailleurs, cette année, elles sont globalement petites. C'est pas les gros calibres. On a beaucoup de calibres 2 au lieu des calibres 4. Elles sont un petit peu moins chères, mais voilà.
Oui, entre 4,90 et 6,90 euros, on les trouve.
Oui, et puis elles sont arrivées donc plus tôt que d'habitude, effectivement, début novembre, avec une petite semaine d'avance, parce que, bah, évidemment, il y a des températures assez douces sur l'île de Beauté, un réchauffement climatique aussi qui joue, il faut bien le dire. Il faut savoir que la Corse, elle se situe dans la zone limite nord de la culture des agrumes. Donc, ça leur donne vraiment un climat très propice et très particulier pour qu'elle se développe mieux que d'autres.
Oui, on cultive plein d'agrumes en Corse. Il y a aussi des pommeaux, des pamplemousses, il y a même un conservatoire d'agrumes.
Exactement.
Sublime.
Alors, comme les clémentines corses sont abondantes cette année, on vient de vous le dire, de nombreux artisans les transforment en confiture en ce moment sur l'île de Beauté. C'est le cas de Christophe Guéguin-Marc-Antoine de la conserverie Anatra à Furiani en Haute-Corse, qui est une conserverie magnifique que vous connaissez, Charlotte.
Et Aurélie. Ouais.
Absolument. Eh bien, ils pratiquent tous les deux l'art de la confiture artisanale. Pas plus de 4 kilos de fruits à la cuisson. Ça permet de ne pas dénaturer le goût du fruit. Alors Frédéric Michel, notre correspondant dans le Sud, a trempé le micro dans le chaudron.
Sur les agrumes, qui est notre identité, on peut en travailler toute l'année. Donc ça va du cédrat, la manne bouddha, la clémentine de Corse, au pomelo de Corse. Quand je dis de Corse, c'est pas par chauvinisme, c'est qu'on est sur des IGP.
Alors là, on a sur la table des clémentines.
Clémentines de Corse, elles ont un petit cuvert avec leurs petites feuilles. On est sur une clémentine bio, chez notre pote Renaud, qui est sur Linguisette. Donc c'est-à-dire milieu de Corse, mais côté est.
Je le vois dans la casserole, vous mettez tout.
On met tout. C'est pas mixé, on peut le voir. C'est vraiment important, c'est qu'en fait, on voit vraiment le fruit, il est taillé. Il y a à la fois donc, le zeste, l'albédo qui fait le côté pectine, et la pulpe. Nous, on tourne au final à 62-65% de fruits, entre 500, 600 grammes, voire des fois 700 grammes de sucre, au kilo de fruits. C'est de l'or en boîte, ouais.
De l'or en boîte, on en a avec nous justement, et c'est vrai qu'il y a une belle proportion de fruits et de sucre.
Elle est extraordinaire.
C'est magnifique. Oh. Quand il parle de l'albédo, vous savez, c'est la partie blanche entre l'écorce, entre la peau et la chair. Et cet albédo, effectivement, eh bien, il le mixe et ça a un petit côté pectine d'albédo et ça donne
Ce qui donne la consistance à la confiture.
Alors, son petit secret, Olivier, vous savez pourquoi elle est si bonne, cette confiture? Il me l'a donné, Christophe, qui est vraiment un spécialiste des agrumes.
Allez-y, dites-le nous, personne n'écoute.
Et alors, entre nous,
que vous croyez.
Il laisse un petit peu de la peau de la clémentine.
Ah ben on l'a,
et ça donne toute cette mâche, parce que ce qui est intéressant, c'est d'avoir cette mâche-là et toute la concentration des goûts qui vient de cette peau.
Anatra, vous trouverez cette confiture dans certaines épiceries spécialisées, dans certains petits magasins. Et on peut l'utiliser en cuisine aussi, cette confiture. Je trouve dans une vinaigrette, par exemple, avec de l'huile d'olive et un petit jus de clémentine et la confiture en plus pour taquiner des Saint-Jacques, un carpaccio de Saint-Jacques cru,
par exemple,
ça marche bien.
Ou des endives taillées à cru, tout simplement.
Oui.
Vous rajoutez ça avec l'association avec les endives et l'amertume aussi de l'endive.
Ça marche bien.
Extraordinaire.
Ça.
Ouais, la cuillère, c'est parfait.
Hein. Alors, vive la clémentine corse. Voilà, profitez-en. C'est bientôt vraiment la fin de la saison. C'est l'heure de répondre à vos questions, chers amis. Alors, sur la page Facebook des Bons Vivants ou sur le 3921, vous le savez, vous posez vos questions. Eh bien, en voici une récoltée sur notre répondeur.
Bonjour les Bons Vivants, c'est Nathanaël de Rennes. En fait, j'ai vu de la haie noire dans un magasin et ça m'a intrigué. Et avant de l'acheter, j'aimerais bien savoir en fait à quoi ça sert et surtout comment on le cuisine. Merci beaucoup.
Ah, l'ail noir. Alors moi, j'adore ça. J'ai découvert ça il y a quelques années grâce à des chefs cuisiniers, effectivement. C'est un ail qui est obtenu par fermentation. C'est un procédé utilisé depuis des siècles en Asie. Et ça prend du temps. C'est pour ça que ça coûte un peu cher, l'ail noir,
Olivier. Parce que les têtes d'ail sont maturées pendant 2 semaines au minimum. Dans un lieu clos, alors c'est toute une recette, à une température de 60-80 degrés, le taux d'humidité est très important, de 70 à 90%, et alors il se produit une oxydation, ce qui va donner à l'ail cette couleur noire ébène assez spectaculaire.
Mais noir intense, noir profond, puis quel goût, Charlotte?
Oui,
aussi,
puis un petit parcours dans le goût, parce qu'en entrée en bouche, ça commence plutôt par une saveur assez douce ou confite, presque légèrement sucrée, qui rappelle un peu le vinaigre balsamique ou le pruneau, par exemple. Et puis ensuite, en fin de bouche, on est cueilli par une petite légère acidité, qui est plutôt agréable aussi.
Alors, où ça se trouve? Eh bien, on en trouve dans les épiceries asiatiques, dans les épiceries fines. Un bulbe d'ail noir, ça se vend entre 7 et 15 euros en général. On en trouve chez certains primeurs aussi. Moi, le primeur à côté de chez moi, il en vend. Ça se cuisine aussi agréablement. Moi, j'ai fait, il n'y a pas longtemps, des Saint-Jacques snackés avec une croûte d'ail noir. Donc, vous snackez votre Saint-Jacques 30 secondes d'un seul côté et sur la surface qui n'a pas été saisie, vous allez mettre une petite pommade avec de l'ail noir, avec du citron confit, un petit peu de chapelure et du pavot. Vous mixez tout ça, vous tartinez votre surface de Saint-Jacques et vous remettez au four à 180 degrés 3 minutes. Et c'est un très très bel accord parce que comme la Saint-Jacques est douce et qu'on est encore en plein dans la saison, ça fait un joli contraste.
Et c'est plus digeste aussi l'ail noir puisqu'il a fermenté, il n'a pas le côté
Il y a pas le germe,
rototoïsant.
C'est vrai, ça ne reproche pas. Ça ne reproche pas, comme on dit dans le sud. Exactement. Donc n'hésitez pas, chers amis, à poser vos questions. Vous le savez, vous êtes ici chez vous, sur le répondeur de l'émission 3921. 50 centimes par minute, ou alors sur Twitter, sur Facebook, enfin, on est là pour y répondre. Et puis n'hésitez pas à commenter l'émission, on est avec vous jusqu'à midi et demi. Hélène Ségara va arriver un petit peu avant midi, donc hashtag Europe 1, la table des bons vivants. Vous êtes ici chez vous, ne bougez pas, on revient dans un instant avec le journal de la cuisine de Fanny Rascle. A tout de suite.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Premier carburant après le réveil, le petit déjeuner est indispensable pour certains, superflu pour d'autres. Alors une chose est sûre, il a évolué au fil des années. Est-il le même encore aujourd'hui en ville qu'à la campagne? Comment l'industrie en a fait un repas? On va en débattre dans un instant avec Gilles Fumet qui est géographe de l'alimentation. Mais juste avant, voici le journal de la cuisine de Fanny Rascle. Bonjour Fanny.
Bonjour Laurent, bonjour l'équipe.
Bonjour.
Heureux
Fanny.
De vous retrouver.
Avec plaisir.
Des restaurateurs qui s'installent sur les marchés, le combat d'un boulanger pour son apprenti et une galette des rois fabriquée par un charcutier admirable. Voici votre menu. Alors, on l'a entendu cette semaine, la perspective d'une réouverture des restaurants s'éloigne encore un peu.
Oui, oubliez la date du 20 janvier. On sait désormais que les restaurants vont rester fermés jusqu'à mi-février, peut-être jusqu'en avril pour attendre le retour du printemps. C'est en tout cas la crainte de nombreux chefs. Mais depuis quelques semaines, des mairies s'organisent pour laisser une place aux restaurateurs sur les marchés. C'est le cas à Paris où 160 emplacements ont été aménagés spécialement pour de la vente à emporter. Même chose à Pontivy, à Vannes, à Saint-Maur-des-Fossés ou à Trouville-sur-Mer. Alors un étal, ce n'est pas une salle de restaurant évidemment, la logistique n'est pas facile à mettre en place, mais c'est une solution de plus pour renouer le lien avec ses clients perdus.
Et puis ça nous manque, quoi. C'est vraiment, on est en manque quoi, de cette chaleur, de ce lien et de cette transmission à table.
C'est là qu'on se rend compte à quel point ils sont importants dans notre culture, dans notre mode de vie et notre paysage.
Essentiel. Direction maintenant Besançon, où un boulanger se bat pour sauver son apprenti, Fanny.
Laïfodé, c'est le nom de ce jeune homme qui travaille depuis plus d'un an dans une boulangerie du centre de Besançon. Il est guinéen, il est arrivé en France quand il n'était encore qu'un adolescent. Le boulanger Stéphane Ravaclet dit de lui que c'est un bon gars. Il voulait d'ailleurs qu'il continue à travailler pour lui. Mais le jeune homme a 18 ans désormais et sa demande de titre de séjour a été refusée. Il doit donc être expulsé. Pour se faire entendre, le boulanger Stéphane Ravaclet a commencé une grève de la faim et une pétition pour les soutenir tous les deux a déjà recueilli plus de 150 000 signatures.
Et bon, pense à eux et on les soutient effectivement. Et puis on termine, tiens, plus légèrement, avec une galette des rois, on va dire, étonnante. Hein,
oui, si vous en avez déjà assez de la frangipane, je vous comprends. Et bien, je vous emmène à la rencontre d'un traiteur de Romans-sur-Isère, dans la Drôme, qui propose une galette à la charcuterie. Voilà, c'est dit. À l'extérieur, elle est ronde, dorée, brillante comme une vraie. Il y a d'ailleurs une fèves et une couronne offerte avec. Mais pour le reste, la recette, c'est farce de cochon, pépites de foie gras, mori et confit d'oignon. David Bourne est champion de France 2020 des charcutiers traiteurs. On peut donc lui faire confiance pour le goût. Et puis on est en 2021, plus rien ne nous fait peur.
Mais vous imaginez à la fin du repas, vous amenez ça là. Mais tout le monde pense magnifique. Que c'est la galette. Vous
je me dévoue pour goûter.
Ah, j'aurais mis un pied de cochon comme fève, moi, carrément, à l'intérieur. Quand faut y aller, faut
ça
faire plaisir.
La
vive la belle charcuterie qui est un bel art. Merci Fanny Rascle d'être restée avec nous. Hein. On n'a pas fini, mais c'est vrai qu'on parle de cet amour du restaurant. Même les bistrots, je ne sais pas si vous avez remarqué, à Paris et dans plein de villes en France, des restaurants, des bistrots ouvrent avec de la vente emportée et on voit les gens, on n'a pas le droit normalement, mais rester autour du bistrot et boire à l'extérieur comme ça des verres, des cafés
oui,
pour
petit
se
café
retrouver.
Chaud pour pouvoir essayer de retrouver cette chaleur humaine
c'est vrai,
qu'on a perdue depuis.
Beaucoup de Français bravent le froid et puis on peut faire aussi un clin d'œil à Albert Roux, un grand chef français qui nous a quittés cette semaine, Olivier.
Mais vous savez, ça fait partie de cette génération de chefs qui ont porté la bonne parole et qui s'étaient fait connaître à l'étranger, à Londres.
Exactement, le Gavroche.
Exactement, et un très très bel ambassadeur du savoir-faire français.
Avec son frère Michel Roux qui venait de disparaître il y a quelques mois aussi.
Laurent Mariotte sur Europe 1.
Alors, à défaut de pouvoir aller au cinéma, on va le cuisiner. On a déjà évoqué ici les recettes des films de Claude Sauté, la cuisine de Louis de Funès. Aujourd'hui, direction l'univers des films d'animation japonais, les films du studio Ghibli. Alors, vous avez probablement vu le livre en librairie, c'est un vrai phénomène, hein, comme les films d'ailleurs, Fanny, qui parle à tous ceux de la génération Club Dorothée, mais pas que. Hein.
C'est pas du tout la référence d'une seule génération. Effectivement, il y a ceux qui ont pleuré devant le tombeau des Lucioles dès la fin des années 80. Ouais. Les plus jeunes, peut-être, qui ont ri devant Ponyo dans la falaise en 2008. Pour compléter la liste, on peut citer Le Château dans le ciel, Mon voisin Totoro, Porco Rosso, c'est l'un de mes préférés, ou Le Voyage de Chihiro qui a fait plus d'1,5 million d'entrées en 2002, on l'oublie. Référence donc dans le monde du cinéma d'animation et qui déborde totalement en cuisine, il suffit d'aller voir sur YouTube ces vidéos pour refaire pas à pas le bento de Monsieur Totoro, riz, edamame et le petit poisson en travers de la boîte, presque 5 millions de visionnages. Et puis il y a donc ce livre qui est en tête des ventes depuis sa sortie à l'automne, les recettes des films du studio Ghibli. Julien Amat est passé en cuisine avec Cédric Litardi, son éditeur, pour réaliser un onigiri. C'est un classique de cuisine japonaise qu'on retrouve dans le film Le Voyage de Chihiro.
Alors, les onigiri du Voyage de Chihiro, c'est un film où la nourriture est centrale, puisque le propos, c'est que les parents de Chihiro vont baffrer comme des porcs, et donc être transformés en porcs.
Chihiro, viens voir, tu n'as pas faim ? Quelle merveille ! Chihiro, tu ne sais pas ce que tu rates.
J'en veux pas ! Je veux seulement qu'on parte ! Les gens du parc ne vont pas être contents !
On la voit manger l'onigiri, alors ce sont des boules de riz, avec quelque chose qui est placé en son cœur, il peut y avoir plusieurs choses, en l'occurrence c'est du thon, enrobé dans une feuille d'algue. C'est l'équivalent du sandwich au Japon. On nous a surtout vendu, c'est des sushis, et éventuellement des brochettes. Mais c'est une toute petite partie de l'alimentation japonaise qui est peut-être la plus diversifiée au monde. Contrairement au sandwich, dire aux enfants, vous allez vous mettre du riz dans la main, ça marche à tous les coups. Moi ce que j'aime bien c'est commencer par juste le riz, prendre le thon mais avec un petit morceau d'algues et du riz pour relever le goût après. Aujourd'hui, les enfants sont élevés en lisant des mangas, en lisant l'animation japonaise et donc en découvrant cette culture qui les fascine parce qu'elle reste lointaine. Il y a nos héros qui les mangent, etc. Donc on veut immédiatement les goûter.
Et ben voilà, c'est malin, voilà
et
pourquoi
ça marche super
le livre
bien.
Cartonne. Hein, ça cartonne.
Hier soir, j'ai encore fait manger de la nourriture de samouraï à mes enfants en leur faisant croire.
Vous savez, les ramen par exemple, quoi, qui sont largement consommée dans tous ces films japonais, connaissent une explosion absolument incroyable en France aujourd'hui grâce à ce cinéma japonais.
Eh bien, merci Fanny Rascle pour ce bel éclairage avec Julien Amat sur ce voyage de Chihiro, entre autres. On vous mettra la recette de l'onigiri sur europe1.fr. Et puis le livre, c'est le fameux livre, comme vous le disiez, qui est en tête des ventes des studios Ghibli, les recettes du studio Ghibli. Merci Fanny, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Arigato. Hélène Segarra sera notre invitée un peu avant midi, alors ne bougez pas, on revient juste après une pause, on a un gros dossier pour vous.
On passe à table sur Europe 1. Laurent Mariotte.
Pour bien démarrer l'année, on s'attaque au premier repas de la journée, le petit déjeuner, le breakfast comme disent les Anglais. Alors on entend tout et son contraire sur son importance. Une chose est sûre, il se transforme au fil des années. On va remonter le temps ce matin, essayer de comprendre l'influence aussi des industriels sur le petit déj. Avec notre invité, Gilles Fumet, qui est géographe de l'alimentation et chercheur au CNRS et auteur de Feu sur le breakfast aux éditions Terre Urbaine. Bonjour Gilles Fumet.
Bonjour.
Soyez le bienvenu. Vous avez pris votre petit-déj ou pas alors?
Non, pas du tout. Non.
Vous n'êtes pas petit-déj, hein?
Pas du tout.
Alors, Feu sur le breakfast, pourquoi breakfast et pas petit-déjeuner déjà?
Alors, parce que justement, il est question surtout de ce repas qui a été déclaré par un certain nombre de nutritionnistes comme le plus important de la journée et qui est ce repas anglo-saxon et obligatoire pour les gamins qui vont à l'école, pour les gens qui vont à l'usine et pour lequel il y a une industrie qui a préparé quelque chose. C'est très différent de ce qu'on appelait le petit déjeuner d'autrefois, qui était donc ce moment au cours duquel on rompait le jeûne, voilà, le déjeuner.
C'est ça, étymologiquement, c'est ça, déjeuner. Voilà. Et breakfast, c'est ça aussi, c'est cassé.
Voilà, sauf que breakfast, c'est une invention donc anglaise, comme vous l'avez dit, américaine même, qui s'est enrichie par l'Amérique et qui s'est glissée dans notre ordonnancement des repas. Parce que donc nous avions en gros deux repas par jour jusqu'au XVIIIe siècle.
C'est ça qui est passionnant. Vous le racontez-nous alors dans le livre.
Oui, je montre par exemple Napoléon. Même Napoléon ne mangeait que tard le matin, alors qu'il était un lève-tôt à 5h du matin, il était debout. Mais il ne mangeait qu'à 9h, 9h30 du matin. Louis XIV, pareil. Et les paysans, les moines, tous ces gens-là qui se levaient tôt, parce que c'était une vie qui était calée sur en gros le
travail, la prière, et deux repas.
Voilà. Ouais. Et puis les jours qui se lèvent et qui se couchent. Donc, on vivait là-dessus. Et puis, sont arrivées les boissons tropicales, donc thé, café, chocolat, en fait, sont arrivées progressivement à partir du 17e, 18e siècle, et dans les couches plutôt aisées, où elles ont séduit plutôt les femmes. Les femmes qui étaient des personnes qui n'aimaient pas trop tremper leur...
Leur pain dans la soupe.
Dans la soupe, et puis surtout dans le vin.
Oui.
Puisque la tradition de boire de l'alcool, elle a duré même jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, voire même après, puisque quand le Premier ministre des années 50 veut mettre le lait dans les écoles, c'est en particulier pour limiter l'alcoolisme le matin, parce qu'il y avait des gamins qui prenaient un bol de lait dans lequel il y avait de l'alcool.
Quand Mendès France a mis le lait à l'école,
exactement,
vous voulez dire, c'est ça.
Mendès France, c'est ça.
Mais alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on déjeunait en général vers la fin de matinée. Le souper, c'était plutôt vers 17h, 18h. Voilà, mais il y a plein de gens qui nous écoutent et qui ont connu leurs parents, leurs grands-parents paysans, prendre un café le matin en se levant. Moi, j'ai vu mon grand-père faire ça. Il prenait son café le matin très tôt, vers 5h30, 6h, la traite des vaches, le travail à la ferme. Et comme il disait, vers 9h30, quand même, il ressignait. C'est-à-dire que là, il mangeait du hareng fumé ou une tartine de lard. Mais il y avait quand même un déjeuner. Donc, il y avait un mini petit-déj quand même.
Alors, le repas du matin, il a toujours existé. Mais il avait lieu en matinée. Voilà, effectivement, le déjeuner. Et le dîner qui était... Le repas qu'on prenait à la 10e heure, le dîner, quand vous vous leviez à 6h du matin, le dîner, c'était 16h. Quand vous vous leviez à 7h, c'était 17h. Donc, c'était ça l'idée. Donc, le repas du matin, il est nécessaire parce que, je l'explique dans le livre, nous avons un système hormonal qui fait que le matin, nous avons une hormone, l'hormone du stress qui nous réveille, qui, en quelque sorte, nous aide à ressortir des vapeurs du sommeil pendant les 3 heures qui suivent notre lever, le cortisol.
Mais pas forcément un gros banquet. C'est ça que vous dites, en fait.
Voilà, donc c'était la collation. C'était la collation.
Vous avez pris un petit déj, Olivier ?
Non, alors moi je fais partie de ceux qui n'en prennent pas du tout. Et c'est vrai que je suis un peu perturbé parce que j'ai entendu dire les nutritionnistes le petit-déj, c'est le repas le plus important de la journée. On nous disait, le matin, il faut manger comme un roi, à midi, comme un prince, et le soir, comme un pauvre. Et moi, je saute totalement le petit-déjeuner. Et aujourd'hui, il semblerait qu'il y ait une tendance à dire que faire un, ce qu'on appelle un jeûne intermittent, de sauter le petit-déjeuner,
16 heures
est plutôt,
entre deux repas,
est plutôt bon pour la santé.
Bah, tout à fait. Comme je suis géographe, j'ai travaillé sur les petits-déjeuners en Europe. Et là, je me suis aperçu que entre l'Allemagne et l'Italie, il y avait un véritable fossé qui était que les Italiens ne prennent pas de petit-déjeuner, ils prennent juste le fameux café dont vous parlez, là, de votre grand-père, le ristretto. Et puis pour ceux qui ont vraiment besoin dans la matinée de quelque chose, on descend au bar, prendre un cornetto avec un peu de crème dedans. Voilà, mais ça, ce n'est pas la majorité. Et puis les Allemands, alors,
donc,
les Allemands qui, eux, alors, mangent énormément, mais parce que le soir, ils mangent peu. Vous voyez, il faut bien mettre le petit-déjeuner dans l'ensemble des repas d'une journée. Voilà. Et si les Italiens n'en prennent pas le matin, c'est parce qu'ils ont gardé leur grand repas familial, qui est la cena, qui est le soir.
Votre livre s'appelle « Feu sur le breakfast ». Le breakfast, c'est le petit-déj anglais. Si on regarde bien, c'est peut-être celui qui est presque quand même le plus équilibré, parce qu'il y a des protéines, il y a du gras, il y a du jambon, il y a un petit peu de glucides aussi. Notre petit-déj français, qui est quand même tartine, beurre, confiture, dans le meilleur des
croissant,
cas.
Croissant, pain au chocolat.
Pain au chocolat, viennoiserie, céréales, c'est une bombe glycémique, hein, c'est que
tout
du sucre. Hein.
Pour la qualité nutritionnelle de ce breakfast, j'ai presque rien à redire, en quelque sorte. Mais la seule chose, c'est que il arrive beaucoup trop tôt. Parce que notre pic de cortisol, il est au moment où on se lève et on le perturbe par un petit déjeuner qui est complètement aberrant.
Charlotte. Oui, c'est ça. Moi, je ne mange pas non plus le matin, non seulement parce que je n'ai pas faim, mais moi aussi, oui.
Voilà.
Non seulement parce que je n'ai pas faim, que je n'ai pas le temps, souvent. Et aussi, du coup, je suis un bec plutôt salé, comme on dit. Et préfère effectivement prendre plus de temps le week-end pour prendre carrément un brunch en fin de matinée avec des choses peut-être plus qui ressemblent au petit déjeuner à l'anglaise.
On va sortir les œufs brouillés. Alors. Ne bougez pas, les amis. Entre les céréales et les jus de fruits sucrés, l'industrie a chamboulé les ingrédients du petit-déj. Quel rôle joue-t-elle vraiment? Sommes-nous dépendants? On en parle juste après ça avec Gilles Fumet. Bon samedi matin sur Europe 1.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Quel rôle joue l'industrie dans notre façon de petit-déjeuner? On se pose la question ce matin avec Gilles Fumet, géographe de l'alimentation, chercheur au CNRS et auteur de « Feu sur le breakfast » aux éditions Terre Urbaine, avec Charlotte Langrand et Olivier Pouls, vous avez entendu, qui ne prêtent pas de petit-déj. Alors, ami boulanger, on n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas manger de baguettes et de pain au chocolat et de viennoiserie, au contraire. Hein, mais on dit qu'il faut bien mesurer et choisir le moment pour la manger, en gros, Gilles Fumet. Hein.
Exactement, c'est ça. On ne va pas mettre sur le tapis tous les boulangers de France, mais on va simplement leur rappeler que, effectivement, le meilleur moment pour déguster leur baguette, c'est un peu tard dans la matinée et puis dans le reste de la journée. Alors, quant aux viennoiseries, effectivement, là, on est dans quelque chose d'un peu plus de l'ordre du dessert. En fait, les viennoiseries, c'était quelque chose qui était consommé de manière assez exceptionnelle et qui se sont banalisées et qui, avec la congélation, avec tous ces procédés industriels, ont pu être proposés tous les jours. Mais c'est professeur Salman qui explique que pour éliminer l'énergie d'un pain au chocolat, c'est 45 minutes de jogging.
Eh oui.
Ah, quand même.
Eh oui, c'est quand même. Oui. C'est pas mal.
Mais moi, manger tôt, le matin tôt quelque chose de sucré, une heure et demie ou deux heures après, on n'est même pas à midi, j'ai à nouveau faim moi aussi. Donc, est-ce que c'est si bon que ça?
C'est le piège. C'est les gens qui vous disent qu'ils sont en hypoglycémie, c'est précisément parce qu'ils se sont mis en état d'hypoglycémie.
Donc,
mais
pas trop tôt, le petit-déj.
Exactement.
Mais alors, ce que vous dites dans votre livre, et c'est passionnant, c'est que l'agroalimentaire a transformé les ingrédients du petit-déjeuner.
Tiens.
Hein, les céréales, le jus d'orange, ça commence par le jus d'orange sucré. Beaucoup d'ailleurs sont faits à base de concentré aujourd'hui avec du sucre rajouté. C'est des bombes glycémiques aussi, ça.
Oui. C'est-à-dire qu'en fait, dès lors qu'on a convaincu un certain nombre de personnes qui étaient dans des rythmes, vous avez évoqué, assez rapides, hein, quand vous dites « j'ai pas le temps », ça veut dire qu'en fait, le matin, on n'a pas beaucoup de temps. L'industrie, elle prépare des produits qui sont disponibles le matin, quand vous êtes un peu dans les vapes, là, vous n'avez pas le temps de choisir, au fond, vous avez des quantités de choses qui sont prêtes en quelques secondes. Donc, le grand...
La simplification.
La simplification, et puis surtout le caractère véritablement...
addictif.
Et après, effectivement, la deuxième étape, c'est que, évidemment, ces produits sont un peu trop gras, un peu trop... Il faut quand même... C'est quelque chose qui m'étonne toujours.
Surtout.
Il faut légiférer pour demander aux gens de mettre moins de sucre et moins de gras dans les produits alimentaires. Là, je trouve qu'on est quand
même...
Ça, c'est
les produits transformés, mais je suis en train de penser à tous ceux qui nous écoutent et qui travaillent sur des chantiers, qui travaillent dehors, qui font fournissent un effort. C'est vrai que le petit café juste avant d'aller au boulot, il ne suffit pas quand même. Il faut avoir de l'énergie pour travailler dehors. On n'est plus comme nos grands-parents qui étaient beaucoup au champ. Il y a une partie de la population sédentaire, mais une autre partie qui est très active aussi.
Alors, une des raisons pour lesquelles, effectivement, on a poussé à l'obligation du petit déjeuner en début de matinée, c'est qu'on a, nous avons des rythmes sociaux qui nous empêchent de faire un break à 10h du matin. Dans les écoles ou ailleurs, on peut pas s'arrêter pour manger.
Alors tiens, à propos des écoles, dans votre livre, La Feu sur le Breakfast, là on n'est pas d'accord, Gilles Fumet, parce que vous parlez de Jean-Michel Blanquer qui avait imposé cette collation aux enfants pour pouvoir démarrer la journée à l'école. Il y a quand même pas mal d'enfants qui vivent dans des quartiers défavorisés, qui n'ont pas les moyens, ou les parents n'ont pas le temps et les moyens de leur donner un petit déj, qui arrivent à l'école le ventre vide. C'est quand même mieux d'avoir cette collation-là à l'école que rien du tout, non?
Alors,
ou pas?
Oui, mais pas en début de matinée, comme c'était proposé. Parce que ça perturbait l'ensemble de la matinée. Donc on l'a proposé en début de matinée. Voilà. Et on s'est retrouvé avec des gamins qui, effectivement, n'avaient pas mangé, mais d'autres qui avaient mangé. Qui remangeaient, forcément.
Il faut que tout le monde goûte à la récré, quoi, en gros.
Voilà, l'idée, c'est que tout le monde goûte à la récré et surtout de ne pas s'en faire. Parce que moi, j'ai fait des conférences encore récemment dans un lycée où 40% des gamins n'avaient pas pris de petit déjeuner et ne sont pas tombés en syncope devant moi. Je les ai tenus jusqu'à midi. Ils ont des réserves. Je veux dire, c'est pas parce qu'un enfant ne mange pas le matin qu'il n'a pas des réserves suffisantes. Si tant est qu'ils mangent correctement à midi.
On parle beaucoup des lobbies aussi. Il y a toujours ce fantasme des lobbies, mais il y a une réalité quand même. C'est vrai que le lobby, entre guillemets, des produits laitiers a joué un rôle important dans notre façon d'envisager et de programmer le petit-déj.
Ah, le lobby du lait, c'est une puissance. D'autant plus que ce produit est symboliquement très, très valorisant, quoi, parce que c'est le lait maternel, c'est tout ça. C'est le lait des vaches, c'est le lait du chocolat. Donc là, le lobby a joué un rôle...
Dans les céréales, un
rôle très important, mais d'autant plus regrettable que une grande partie du lait nous vient de vaches qui sont pas nourries à l'herbe, ce sont des usines à vaches, des usines à lait
en silage,
dans silage. Bon, un lait de quand même qui a déjà été écrémé, qui est de qualité finalement très très médiocre, mais qui a l'avantage de se mélanger avec des céréales sèches qui sont pas disponibles comme ça à manger et qui de fait fabriquent cette espèce de bouillie qu'on voit dans l'Europe du Nord et jusqu'en Russie où
comme les porridge.
Les porridge, exactement. Voilà, où on peut avec du lait qui est disponible au réfrigérateur fabriquer quelque chose qui va nous caler l'estomac.
Mais un porridge de céréales complète pris à la bonne heure, c'est sympathique, c'est avec bon lait au lait cru,
tout à fait. Dans une belle datcha russe, voilà. C'est parfait.
Si je dois résumer, en gros, Gilles Fumet, en fait, vous ne dites pas non au petit-déj, oui au petit-déj, mais à condition de le prendre à la bonne heure.
À la bonne heure, voilà, c'est ça. En sachant que, en gros, lorsque nous nous levons, nous avons un système de cortisol qui se met en place, des pics de cortisol qui va se mettre en place et qui va durer en gros 3 heures et qui nous garantit pendant les 3 heures qui suivent notre lever que nous n'avons besoin de rien.
Donc voilà. Si on s'éveille à 7 heures, on peut manger à 10.
Après, c'est parfait.
Et des produits bruts, entiers et non transformés.
La fameuse confiture dont j'ai entendu parler tout à l'heure.
Votre livre est passionnant. Feu sur le breakfast, c'est très historique. On remonte le temps aussi. On voit comment on mangeait dans nos campagnes, comment les moines mangeaient dans les abbayes, ce qu'on voudrait nous faire avaler avec l'agroalimentaire. Bref, un livre passionnant, le Feu sur le breakfast de Gilles Fumet aux éditions Terre Urbaine. Merci Gilles d'être venu avec nous. Ne bougez pas, on revient dans un instant avec Hélène Segarra. Et alors là, on va se mettre à l'heure de la cuisine italienne. Ça va chanter.
Ah oui.
Hélène Segarra est notre invitée. Bonjour Hélène.
Bonjour, ça va?
Bonjour. Eh bien, vous, bonne année.
Ça, oui, merci.
Qu'est-ce qu'on vous souhaite?
On se souhaite tous le meilleur.
Hein, la santé, puis le succès pour l'album?
Ben écoutez, s'il peut rencontrer son public, ça serait magnifique, oui.
C'est vraiment du fait maison, cet album, parce que c'est vous qui vous avez écrit, c'est la première fois, toutes les paroles de toutes les chansons.
C'est vrai, mais j'y tenais parce que c'est un peu un album particulier quand même. Il a un contenu très particulier.
Fort, sensible, émotionnel aussi. Il était fait où, cet album?
En grande partie, j'ai écrit à la maison. Et tu, on parlait de cuisine avant de prendre l'antenne et je l'ai écrit en cuisinant aussi.
Ah ben voilà, ça inspire.
J'écoutais les musiques dans ma cuisine et puis souvent je réfléchissais à ce que j'avais envie de dire dessus.
Quel est votre goût de la semaine, Hélène Segarra?
En ce moment, j'ai un petit marché à côté de chez moi et je craque pour les kakis.
Ah.
Tout le monde n'aime pas le kaki, mais le kaki, quand on sait choisir qu'il est bien mûr, C'est vraiment un
oui,
fruit
délicieux.
Oui,
parce qu'il y en a deux, vous avez raison. Il y a
oui,
le persimmon
qui est plus dur, oui.
Ouais, et qui, lui, est un peu plus astringent, oui. On va dire. Mais alors l'autre, quand il est bien, bien mou, bien mûr, il y a un petit goût de date, je trouve.
Exactement.
Moi, dedans,
hein. Il fait un peu confit.
Vous le mangez au petit-déj, vous le mangez comment ?
N'importe quand, là. J'en ai mangé un hier soir et j'en mange souvent le matin, oui. Et en plus, c'est plein de fibres. Il faut savoir que moi, qui ai suivi un programme diététique pendant très longtemps, eh bien, c'est pour nous, c'est zéro point, un kaki. C'est-à-dire qu'on peut se faire plaisir à quelque chose de sucré sans prendre un gramme.
Et oui, on en parlera parce qu'on vous voit en ce moment beaucoup à la télévision faire de la publicité. Et vous nous raconterez tout à l'heure, justement, quelques petites choses étonnantes et amusantes autour des recettes. La cuisine fait partie de votre vie. Ça, ça vous détend de cuisiner ?
Oui, c'est vrai. Ça me détend. Et surtout, c'est une manière de partager pour moi. J'ai appris à cuisiner à l'âge de 11 ans. Avec ma grand-mère italienne. Et ça fait partie, pour moi, c'est la normalité. C'est-à-dire que mes enfants n'ont jamais mangé un petit pot. Je ne me vois pas leur faire des surgelés. Donc voilà, c'est un vrai plaisir, mais en même temps, une vraie philosophie. C'est-à-dire que pour moi, la santé commence dans l'assiette.
Une discipline du quotidien, on peut dire. Presque.
Une discipline, c'est quelque chose à laquelle on doit s'astreindre. Là, c'est plutôt un plaisir, quoi.
Alors, à propos de plaisir, tiens, Charlotte Langrand qui est à côté de vous, qui êtes-vous ? C'est Alice qui apporte un gâteau, vous allez voir, on va tout vous expliquer. Vous allez nous montrer, Charlotte, les vertus apaisantes d'un ingrédient nouveau en cuisine, c'est le CBD, une molécule issue du chanvre et qui a inspiré un grand pâtissier avec ce gâteau étonnant.
Oui, regardez-moi ce gâteau appétissant.
On dirait un petit nuage.
Voilà, il s'appelle Cyrus, il a une forme de nuage bien dodu, il est presque comme en lévitation.
Mais c'est un nuage.
C'est là que son auteur a de l'humour, hein, c'est le grand pâtissier Philippe Conticini,
ah oui.
Parce que c'est le premier gâteau haute pâtisserie qui contient du
CBD,
c'est-à-dire l'une des molécules appelées cannabinoïdes qui sont présentes dans le chanvre, le cannabis. Alors attention, je vous rassure, je ne suis pas en train de vous servir un space
non,
cake
mais le CBD, y a rien, ouais.
un samedi matin sur Europe 1. Non, contrairement à son voisin, le THC, bien connu pour ses actions psychoactives, le CBD ne comporte aucun effet psychotrope.
Oui, ça je sais.
Voilà. Et la Cour européenne, d'ailleurs, vient de définitivement exclure cette molécule de la catégorie des stupéfiants.
On est rassurés.
Voilà,
il paraît quand même toutefois qu'il aide à dormir, le CBD, sans avoir les mauvais effets d'une drogue, et qu'il aide aussi pour les gens qui peuvent être épileptiques, etc.
C'est vrai. C'est ça. Alors racontez-nous, justement, ça a des effets pour la santé.
C'est
justement.
Ça. Ce petit nuage pâtissier est parfaitement légal et ne fera pas planer. Et en revanche, le CBD, il a été utilisé en Asie, par exemple, depuis des millénaires pour soigner les rhumatismes, la goutte. Et depuis, il y a des études qui ont mis en valeur ses propriétés, comme vous le disiez. Antispasmodique, antidouleur, anti-inflammatoire, il apaise les douleurs chroniques, il réduit le stress. Bref, elle calme, elle apaise, elle relaxe. Et aujourd'hui, on en trouve même dans les cosmétiques aussi et donc dans la nourriture. Par exemple, à Paris, vous avez une marque qui s'appelle le Chanvrier français qui propose une infusion, un miel, des Energy Balls au CBD. À Nice, il y a même un chef qui vient de faire une pizza à la crème fraîche et à la fondue de poireaux avec saupoudré dessus, comme de l'origan, des fleurs de CBD.
C'est rigolo. Alors, est-ce que la question que tout le monde se pose, est-ce que c'est un intérêt gustatif ? Tiens,
c'est une petite mousse au citron très agréable.
On sent surtout le citron. C'est vrai que le chanvre,
ça
n'a pas de goût. Là, il est neutre. Là.
Voilà. C'est, en fait, comme toute herbe utilisée en cuisine, on peut s'essayer à la cuisiner. Donc, elle fait partie de la famille des plantes adaptogènes, comme le basilic sacré, par exemple. Il existe toute une variété de fleurs de CBD. Hein. Le chanvrier français, ils en distinguent, par exemple, il y a la lemon skunk, qui a des notes d'agrumes ou la cookie kush.
J'ai un éléphant qui me pousse dans le dos.
Qui tend vers le chocolat et la menthe. Alors donc, il faut savoir quand même la doser ou la cuire. C'est une herbe, faut pas non plus trop en mettre. Et il y a même un livre qui est paru chez Marabout qui vous donne les recettes. Et là, si vous êtes intéressé par cette substance, c'est pas seulement pour le fun. Hein. Philippe Conticini, il a aimer son petit goût un peu amer.
Voilà. Alors ce que j'allais dire. Ça. On a un deuxième goût qui arrive
exact.
En bouche, qui
est lait.
Voilà. C'est pas très désagréable. Non, moi je trouve ça plutôt bon ce qu'il a fait. Je trouve qu'il a bien dosé.
Une amertume profonde hein, quand même qui reste là.
Profonde, tu trouves ?
Ah ouais, je trouve.
Tu es très sensible de l'amertume.
Oui, moi je suis très sensible à ces trucs-là. C'est vrai.
Et vous aviez raison. Donc c'est une crème au pamplemousse, à l'orange sanguine et au citron jaune, saupoudrée de quelques baies de thymut broyées et insérer donc dans cette crème quelques gouttes de CBD.
Donc on peut le trouver dans les magasins, ce CBD, pour le cuisiner comme ça ?
Ah oui, bien sûr, vous pouvez le trouver sous forme d'huile, sous forme d'herbe, vous pouvez vraiment... Il faut juste vous renseigner, en général, dans les boutiques, ils vous expliquent bien comment ça se passe.
Boisson pour dormir aussi.
Voilà.
Mais en fait, il faut se dire que la nature nous a tout donné. On en a fait une drogue récréative, mais à la base, effectivement, le CBD était vraiment un remède pour plein de choses que tu as citées. Et je trouve que c'est dommage que les gens aillent vers des molécules chimiques aujourd'hui, alors que les plantes peuvent soulager beaucoup de maux.
Et oui, on n'est pas dans la synthèse, là, effectivement. Et attention, c'est pas le THC, là. Hein.
Oui, c'est pas du tout le THC. Il n'y a aucune substance psychotrope. Et surtout, par contre, il faut quand même savoir que c'est pas donné, hein, parce que c'est trois fois plus cher que le caviar ou la truffe. Hein, donc, ce petit gâteau de 150 grammes a quand même son prix. Il coûte 22 euros, mais on peut quand même aller goûter ça chez Philippe Conticini ou ailleurs. Le miel, pour faire une petite eau chaude le soir avec un peu de miel, c'est très bien.
Ah bah écoutez, c'est pas mal.
On dort très bien.
En tout cas, je vois que ça vous plaît, Hélène Ségara, ouais. Ça fait plaisir.
Mais moi, j'adore manger.
Mais c'est pour ça que vous êtes là, figurez-vous. Et puis chantez, nous, on aime les deux, justement. Les nourritures terrestres et spirituelles, ne bougez pas. On revient dans un instant, Hélène, avec un joli plat de gnocchi fait spécialement pour vous. Ah, j'en dis pas plus parce que...
Attention, les gnocchis, c'est ma spécialité, ils n'ont pas intérêt à se rater.
Eh bien, je sais, ce sera après les titres. De Fabienne Lemoile, bonne cuisine hein, si vous êtes en train de la faire. A tout de suite, on revient.
Service, s'il vous plaît, on enlève un cabillaud aux pousses d'épinards. Et une cuisse de volaille, s'il vous plaît.
11h30, la table des bons vivants, Laurent Bariotte.
Soyez les bienvenus si vous nous retrouvez. Nous sommes ensemble jusqu'à 12h30. Alors, nous avons remonté l'histoire du petit déjeuner à travers le temps et à travers les pays du monde. Nous avons suivi un atelier confiture avec la Clémentine Corse. Wow. Et nous revoilà avec la belle Hélène Ségara et son album Karma qui sort au mois de mars. Hélène, l'Italie coule dans vos veines. Vos racines italiennes y sont pour quelque chose, j'imagine, dans votre amour de la cuisine.
Oui, c'est quand même très bonne cuisine. Mais vous savez, ma maman est arménienne et la cuisine arménienne vaut le détour aussi. Il y a beaucoup de légumes farcis, il y a quand même des choses à découvrir aussi. Et quand j'ai voyagé pas mal en Arménie les dernières années, j'ai découvert que finalement c'était une cuisine méditerranéenne aussi très intéressante.
Et vous vous souvenez de vos premiers pas dans la cuisine italienne? Ça ressemblait à quoi alors?
Oui, en fait, tous les dimanches, on faisait les gnocchi chez nous. Et ma grand-mère nous engageait tous pour rouler sur la fourchette.
Et oui. Et pour on que la sauce adhère.
Oui, on en faisait beaucoup. On mettait à peu près l'équivalent de 2,5 kg de pommes de terre parce qu'on était très nombreux. Et donc, on en faisait pour facilement 15 personnes. Ça faisait des gnocchi à rouler, hein, je peux vous dire.
Et quelle sauce alors vous faisiez avec?
Bolognaise. Ah. Mais la bolognaise, pour moi, il y a plusieurs philosophies de bolognaise. Moi, je ne mets pas de carottes dans ma bolognaise. Je déteste les bolognaises avec des carottes.
Vous mettez quelle viande dedans?
Du bœuf.
Du bœuf, voilà. Est-ce que vous mettez un petit peu de lait? Parce que dans la bolognaise officielle, on met un petit peu
de lait. Une goutte de lait aussi.
Et de vin rouge pour adoucir la tomate et l'acidité de la tomate.
Non, ben, ça, on peut l'obtenir avec un peu de sucre même. Mais c'est vrai que, en plus, comme j'ai fait des bouquins de cuisine allégée, j'ai quand même revisité un petit peu. J'ai enlevé tout ce qui pouvait alourdir mes sauces. Oui.
Et votre grand-mère, elle faisait quoi d'autre à part les fameux gnocchi?
Plein de choses. Bon, je peux vous dire que je ne peux pas manger une escalope milanaise ailleurs que chez moi, parce que la façon dont elle les faisait et dont je les fais, c'est...
Qu'est-ce que c'est bon, ça?
C'est bon quand c'est bien fait, oui. Et pas quand c'est une semelle dure et sèche et mal panée. C'est bon quand c'est savoureux, quand on a su choisir la viande, quand on a mis une belle panure, quand on
un
a...
Un bon parmesan.
Voilà, hein. Quand on n'a pas fait trop gras aussi. Mais après, c'est tellement de choses. Je fais du veau au petit pois, je fais vraiment beaucoup de choses. Mais une cuisine très simple, parce que je suis d'une famille très modeste à la base. Donc, on avait nos produits. Mais chez nous, on mangeait nos légumes, nos fruits. Mais c'était que des choses simples, avec l'huile d'olive qui était faite maison aussi.
Mais la cuisine italienne est une cuisine simple, hein, rustique, oui. Une cuisine familiale, une
exactement.
Cuisine de mama, en fait.
Exactement.
C'est pour ça qu'on l'aime tant, parce qu'elle parle à tout le monde. Alors, on a un plat du jour spécialement pour vous. Vous nous parliez des gnocchi, Hélène Ségara. Eh bien, on va vous faire découvrir des gnocchi, mais attention.
Ah, mais pour de vrai.
Pour de vrai.
Attends, il faut que je prenne une photo. Je vais vous poster ça, parce que...
Vous trouverez ça sur europe1.fr.
Mais ils sont comment, ces gnocchi? Ils sont rouges.
Ils sont rouges. Ce sont des gnocchi à la betterave, faits par Sonia Ferrazzana, qui est au fourneau du restaurant Il Cuoco Galante à Paris, dans le 9e arrondissement, Charlotte.
Oui, cette cuisinière a démarré sa vie de cuisinière, comme vous, Hélène Ségara, avec des gnocchi. C'est le premier plat qu'elle a réalisé quand elle s'est lancée en cuisine dans sa trattoria italienne près de Parme. Elle venait d'avoir 18 ans quand elle l'a fait. Et à l'image du restaurant, elle casse plutôt les codes. Hein, elle donne un nouveau souffle comme ça aux recettes traditionnelles.
J'aime bien les gens qui revisitent. Voilà. Moi.
Vous aimez bien la betterave?
Oui, mais j'ai pas d'interdit, moi.
Oui, c'est ça. Mais alors, j'aime bien ça avec vous, parce que vous n'avez pas d'a priori, justement, sur les produits. C'est vrai que c'est bien de redécouvrir les produits, même si parfois, ils ont laissé des souvenirs un petit peu bizarres à la cantine. Et alors là, réagissez sur Europe 1. Tiens, Hélène Ségara est en train de se prendre en photo avec ce joli plat de gnocchi à la betterave. Oui, parce que vous nous parliez des gnocchis de votre grand-mère. On n'a pas voulu, justement, faire la même chose que ce que faisait votre grand-mère, parce que la comparaison est souvent difficile avec les souvenirs d'enfance. Alors goûtez, tiens, ces gnocchi à la betterave. Mmh. Olivier, vous avez goûté?
Oui, alors, elles sont colorées, évidemment, la betterave étant très colorante, mais il y a aussi une sauce à la betterave, on la sent bien, parce que la betterave apporte un côté un petit peu sucré, un petit peu rond à ces gnocchi. Et c'est contrebalancé, je pense, avec un peu de fromage.
Il y a du gorgonzola, non ?
Un peu de gorgonzola.
Exact. Et alors, le gorgonzola et le mariage avec la betterave, j'y aurais jamais pensé, mais
ça
c'est un délice.
Bien. Ça marche super bien. Sauce au gorgonzola et betterave, ouais, c'est super.
Je voudrais la féliciter aussi pour la texture, parce qu'ils sont très légers, ils ne sont pas collants, ils sont vraiment chouettes.
C'est une belle réussite. Sonia Ferrazzana, le restaurant Il Cuoco Galante à Paris, dans le 9e arrondissement. J'ai eu la chance
d'aller manger là-bas. Moi, je veux faire cette émission tous les jours,
là-bas. Mais venez, vous avez votre ronde serviette, Hélène Ségara. Ça faisait longtemps qu'on voulait vous inviter, justement. C'est vrai que c'est un bel accord. On peut les faire à la maison. On peut faire aussi, moi je fais ça, des gnocchis avec du potimarron. Ça marche bien, purée de potimarron ou de potiron.
Tu peux faire plein de... En fait, tu peux faire plein de variantes. Maintenant, ils ont sorti des machines pour faire les pâtes soi-même, où tu peux faire tes tagliatelles, etc. Et tu peux rajouter, pendant que tu fais ta pâte, tu peux rajouter des épinards, tu peux rajouter... Voilà. Et moi, j'ai un de mes enfants qui est intolérant au gluten, donc je revisite énormément aussi.
Ben là, il peut. Qu'est-ce qu'on boit avec ça, tiens, Olivier?
On est en Italie, on va y rester. Un vin rouge du nord de l'Italie, un vin rouge du Piémont. Alors, on n'est pas forcément obligé d'aller... Pas forcément un Barolo cher et prestigieux, mais on peut simplement prendre un petit vin de Nebbiolo, ce cépage délicieux, avec le côté croquant et très proche du fruit aussi, qu'on a d'ailleurs dans l'expression de cette betterave qui n'est pas du tout terreuse. On est presque plus sur des notes de fruits rouges que de terre, ce qu'on peut habituellement trouver dans la betterave.
C'est ce que j'apprécie là, moi.
C'est très bon.
Est-ce qu'il y a compète avec les gnocchi de votre mémé, alors?
Ça n'a rien à voir.
Ben, c'est ce qu'on voulait.
Je dirais que c'est la version contemporaine. Contemporaine aussi, mais...
Contemporaine, oui, c'est joli.
non, c'est contemporain, mais c'est très réussi, je la félicite.
Eh bien, c'est super, ne bougez pas, nous sommes début janvier. Comme chaque début de mois, on vous propose des vins pour accorder les produits de saison. Et c'est vous, Olivier, qui êtes à la manœuvre. Ce sera... Juste après ça, les beaux gnocchis à la betterave. Vous retrouverez la recette évidemment sur europe1.fr. Bon samedi midi.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Comme la musique, la cuisine adoucit les mœurs. Eh bien, ça tombe bien. Elle excelle dans les deux domaines. Hélène Ségara est notre invitée. Hélène, tiens, on vous voit en ce moment dans une publicité pour une marque de programme minceur. On vous demande de vous priver de certains ingrédients.
Non.
Comment ça marche?
Alors, c'est la réussite de ce programme. Hein. C'est WW depuis 3 ans. En fait, j'ai eu beaucoup de cortisone pendant plusieurs années.
Ouais.
Et j'essayais tous les régimes de la création, y compris les régimes protéinés, etc. Problème d'un régime protéinés, c'est que quand vous enlevez les sucres lents, c'est-à-dire le pain, les pâtes, le riz, évidemment vous allez mincir. Et bien sûr, les sucres rapides, on vous prive de fruits, on vous prive de sucre, on vous prive de tout. Et donc, forcément, il y a du résultat rapide. Mais dès que vous réintroduisez ces aliments, vous reprenez aussitôt. Et moi, ce que je suis en train de montrer depuis 3 ans, c'est la stabilité. Alors que vous me voyez, je me prive de rien.
Ah, vous grignotez à tout, là.
Non, je goûte tout. Mais je sais à peu près. Par exemple, si à un moment donné, je craque et que toi et moi, on va se faire une pizza avec des pépéronis, mais une bonne pizza, je sais exactement combien de points vaut ma part. C'est-à-dire qu'une part vaut 8 points. Donc, je vais manger 2 parts, je vais en avoir pour 16 points, mais moi, j'ai droit à 24 points par jour.
Mais c'est ça comme veut dire au Monopoly, on gagne des trucs à la fin
ou
pas ?
Tu gagnes le droit. Alors, t'as plein d'aliments qui sont à zéro, c'est-à-dire les viandes blanches, les poissons blancs, les légumes et les fruits à volonté, des œufs, du fromage blanc. C'est-à-dire qu'à côté, après, tu peux manger tout ce que tu veux à condition de compter tes points. Je me suis privée de rien et je maigrissais quand même 1 kilo par semaine.
Donc, vous ne vous privez de rien, c'est ce
jamais
que vous dites. Donc, plein d'ingrédients. Qu'est-ce qu'on trouve dans les placards d'Hélène Ségara, les ingrédients
tout,
qu'on trouve chez vous?
Tout, mais dans les placards, il y a du riz, parce que je reconnais que j'aime bien faire un bon petit risotto. Il y a des pâtes, mais je privilégie plutôt des pâtes spécifiques pour ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, soit des pâtes au blé ancien, soit des pâtes sans gluten. Il y en a des très bonnes maintenant. Il y a toutes sortes d'épices. Il y a aussi de quoi cuisiner à la dernière minute. Par exemple, moi, j'ai toujours des gens qui débarquent à n'importe quelle heure. Si je n'ai pas prévu, avec une boîte de thon, un petit oignon dans le frigo, vous pouvez faire une belle plâtrée de pâtes délicieuse. Donc, il y a toujours des tomates, des oignons, de l'ail, il y a toujours ça.
Et
dans
oui,
mes
c'est ce que j'appelle la semi-cuisine avec des produits du placard et des produits
exactement.
Frais. On fait de beaux assemblages et on régale la familia. Alors, je sais que vous êtes curieuse et à la recherche de nouveaux produits en cuisine, notamment pour une pâtisserie moins sucrée. C'est-à-dire que vous évitez tout ce qui est blanc, en fait. Hein.
On sucre en parle blanc, souvent, sel blanc, farine blanche, tout ça, c'est très raffiné, donc ce n'est pas très bon pour la santé, hein, parce que plus le produit est brut, au meilleur il est. Pour notre corps, pour notre organisme, pour qu'on puisse, entre guillemets, mieux le digérer et l'absorber.
Et l'assimiler, parce que c'est beaucoup des choses rapides, tout ça. Oui.
Ce qu'on appelle le process de digestion, quelque part. Mais c'est vrai que, même quand j'ai fait le livre, je ne voulais pas faire un livre sans dessert. Donc, j'ai montré comment faire, par exemple, de la guimauve pour nos enfants, mais de la guimauve... Moi, c'est drôle, par jeu, j'ai fait une fois une émission sur M6 qui s'appelle Le meilleur pâtissier. Alors, je ne suis pas du tout douée pour la pâtisserie, parce que moi, je fais tout au pif et à l'instinct. Et là, il faut tout peser, tout machin,
c'est
et j'avais
précis,
jamais
ouais.
fait ça. Et je me suis aperçue que quand on nous imposait une recette, le nombre de gras, c'est-à-dire de beurre et de sucre qu'on met, c'est hallucinant.
Ah, il y en a, mais il faut que ce soit bon. Hein.
Moi, je divise minimum par deux, maintenant, d'office, mais par exemple, mes guimauves, elles ne coûtent pas beaucoup de points et elles font plaisir aux enfants. Le chocolat noir, c'est hyper important. Ben oui, les points, parce qu'en fait, finalement, ça devient ludique.
Oui, ben alors là, moi, je vous propose un truc, c'est qu'on va exploser le compteur des points avec Olivier Pouls. On va faire des accords mais points avec vous, Olivier, les accords mais 20. C'est une tradition maintenant, chaque début de mois, vous nous parlez de deux produits de saison, un produit intemporel qu'on accorde. Et on va commencer par un produit de saison qu'on trouve chez nous et qu'on cultive en France. On en a parlé au début de l'émission avec notre marché, c'est le kiwi.
Ah ben ça, c'est le cadeau de début d'année.
Sympa, hein ?
Ouais, c'est sympa. Non, parce que franchement, l'accord
c'est dur,
avec le kiwi, c'est très compliqué. Alors on va oublier l'accord avec un kiwi frais qu'on mangerait comme ça. Pour prendre des vitamines, justement, ça n'a pas tellement d'intérêt de le marier avec du vin.
Mais dans une salade.
Dans une salade ou une petite recette très facile, des petits flans au kiwi et zeste d'agrumes, puisqu'on est dans la saison. Alors, ce n'est pas très compliqué, avec des œufs, un petit peu de fécule de maïs, un petit peu de crème,
tout
petit peu de sucre.
Très bonne idée.
Et alors là, on a un accord qui peut être assez amusant avec un vin un petit peu enrobé, c'est-à-dire très légèrement sucré, mais pas trop, pour garder de l'acidité.
Ça.
Un vouvray demi-sec, par exemple. Ou alors, si on veut quelque chose de plus généreux, hein, pour vous, mon cher Laurent, par exemple, je ne sais pas, un petit muscat de Rizval.
Ah, ça j'aime bien.
J'ai goûté
bien
ça. Alors, moi, je bois pas d'alcool normalement, mais j'ai quand même goûter ça. Et bon, j'étais pompette avec deux gorgées, mais j'adore.
Alors, autre produit de saison, Olivier, c'est le céleri rave, le joli céleri boule. Qu'est-ce qu'on peut choisir comme vin pour accorder avec le céleri rave?
Ah, et j'adore le céleri rave. Alors là, il y a deux manières. On le fait cru éventuellement, remoulade, avec, vous savez, la
mayonnaise
la
qui enrobe, mayonnaise moutardée. Oui.
Bon, là, on est vraiment dans l'esprit bistrotier, canaille. Un vin de Bourgogne, un simple chardonnay, donc un Bourgogne blanc, évidemment, bien frais, assez jeune, ça va faire le job.
Ça, c'est la version crue. On peut le cuire aussi, le céleri rave.
Ben, j'adore, je le cuis dans la cheminée, par exemple. Et puis simplement, cuit comme des pommes de terre en robe des champs. Dans la braise, on ouvre, on met juste un tout petit peu de beurre et puis on vient le manger comme ça.
C'est
un beurre au parmesan avec ça. Vous le faites sinon au four, entier au four, en croûte de sel, le céleri avec la peau.
Magnifique.
Et la peau va infuser la chair du céleri. On aura ce petit côté citronné avec ce parfum unique du céleri. C'est délicieux.
Un délicieux beurre au parmesan. Là, ça m'appelle encore un vin blanc, mais un vin blanc un petit peu plus vieux, justement, pour aller se marier avec le parmesan.
Alors, pour exploser le compteur des points, je vous propose de sortir un beau saucisson, maintenant.
Oh, c'est bon.
Ça, c'est l'intemporel du mois. Qu'est-ce qu'on prend avec un saucisson? Alors, on a vraiment dans l'inconscient collectif le petit coup de rouge avec le saucisson.
Ben, je vais casser le mythe, parce que le coup de rouge avec le saucisson, ce n'est pas un accord qui fonctionne très bien. Pourquoi? Ben, parce que le gras du saucisson et les tanins du vin rouge, ça ne marche pas très très bien.
Mais
alors si on veut vraiment prendre un rouge, on va prendre un rouge très 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 peu tannique. On pense au Beaujolais ou à certains vins de Bourgogne, mais franchement avec un vin blanc sec, c'est quand même nettement plus excitant. Prenez un joli vin blanc de Savoie, par exemple.
Un saucisson est excitant.
Mais bien sûr.
Et le vin qui va avec, surtout.
Mais oui, c'est l'accord. Un blanc du sud-ouest, un blanc de Savoie.
Calmez-vous.
Et on joue toujours l'accord aussi local, en fonction de la provenance du saucisson.
Et ben, prenez un vin qui est dans beaux accords. Sur europe1.fr.
Bah exactement, avec un bon saucisson.
J'avoue que j'adore ça, le saucisson, mais saucisson et fromage, j'ai quand même levé un peu le pied par rapport à avant.
C'est
une grande consommatrice.
Là, les points, ça clignote, là. Le compteur des points, il clignote. Ne bougez pas, on revient dans un instant avec Hélène Segarra. Et on a un questionnaire pour vous, chère Hélène, parce que vous allez passer sur le grill des bons vivants.
Très bien.
Eh bien, c'est super. À tout de suite.
On passe à table sur Europe 1. Laurent Mariotte.
Merci d'être à table avec nous. Nous sommes avec Hélène Ségara et son dernier album qui sort en mars. Ça s'appelle Karma. Une tournée est prévue à partir du mois de mai. Et au mois de mai, le 27 et 28 mai, les 27 et 28 mai, vous serez au Trianon à Paris.
Exactement. Mais après, on fait une petite pause pendant l'été parce que les festivals d'été ont un peu souffert à cause de notre épidémie chérie.
Et comment ?
Et on se retrouve après à l'automne et pour une longue tournée. Quand même, il y a beaucoup de dates déjà.
J'imagine que vous avez hâte de retourner sur scène et de voir votre public.
Oui, et puis ils me le disent tous les jours parce que j'ai un lien très fort sur Instagram avec eux. Ils ont hâte, ils ont déjà leur place. Il y en a plein qui ont posté des stories où ils avaient les billets là pour Noël. Donc c'est très très mignon.
Est-ce que le restaurant vous manque autant aussi, le fait de pouvoir aller au restaurant ?
Ça me manque parce que parfois, je n'ai pas toujours le temps de cuisiner, donc j'ai mes petites adresses, mais j'avoue que j'aime bien manger chez moi, j'aime bien avoir le temps de cuisiner quand même.
Du fait maison chez Hélène Ségara, on l'entend depuis tout à l'heure, avec les gnocchis, on a ces gnocchis pommes de terre, sauce à la betterave, avec une belle sauce au gorgonzola qui enrobe le tout. Il y a 5 ans, Hélène Ségara, vous avez sorti un album de reprise de titres italiens que vous avez intitulé Amaretti.
Oui. Ah, et oui, c'était le gâteau de mon enfance en Italie.
Les petits biscuits croquants aux amandes.
Aux amandes, oui. Mon grand-père, on avait une petite épicerie italienne à côté de chez nous. Et à chaque fois que j'étais sage, mon grand-père, il me laissait en choisir une. C'était comme dans des papillotes. Il y avait plusieurs couleurs, une des vertes, des jaunes. Et j'allais chercher ma papillote aux amandes.
C'est compliqué de voyager en ce moment. Vous nous le dites, vous aimez bien faire la cuisine à la maison. Est-ce qu'il y a des styles de cuisine, des styles de pays que vous aimez retrouver dans votre assiette ?
Je me suis même mis à l'asiatique parce que je trouve que c'est une cuisine qui est raffinée, qui est intéressante aussi. On m'a appris à faire des nems, donc je les ai revisités aussi. J'en fais tantôt au poulet, tantôt au porc. J'en fais aussi au chocolat avec des petits bouts de banane dedans. Je me suis mis au wok parce que c'est une cuisine qui est vraiment... Et j'adore la coriandre.
Ah, j'en mets partout,
ah,
moi aussi. Alors, il y a
ça.
Des gens qui n'aiment pas la coriandre, mais c'est génétique, figurez-vous.
C'est clivant,
hein. Quand on n'aime pas la coriandre, c'est que quelqu'un dans la famille déjà n'aimait pas la coriandre autrefois. Musique et cuisine font bon ménage, on l'entend. Et d'ailleurs, ce dernier album, Karma, vous l'avez en partie écrit en cuisinant. Vous écoutez quelques morceaux parfois en faisant la cuisine ? Vous écoutez des artistes ?
Oui. Mais ça dépend dans quelle humeur je suis. Ça peut être des choses très nouvelles, mais de temps en temps, quand je prépare un bon dîner italien, j'aime bien me mettre un petit coup de Sinatra et accueillir mes invités sur des petites chansons comme ça de crooner. C'est toujours sympa, mais allumer quelques bougies.
Un beau Bocelli aussi, vous avez chanté avec Andrea Bocelli.
Oui, bien sûr. On se voit toujours. J'ai fait 2 duos italiens dans ma vie avec Andrea Bocelli et avec Laura Pausini et on a toujours gardé contact et on est toujours restés amis.
Je les ai, ces duos, dans mon téléphone et je vous assure que quand je suis en voiture, ça donne la patate.
Oui, c'est gentil ça.
Votre voix et ce mariage avec Laura Pausini et Andrea Bocelli, j'adore.
Quand vous cuisinez des gnocchis.
Oui, moi aussi, voilà, j'aime bien faire des thématiques. C'est l'heure de passer sur le grill des bons vivants, Hélène Ségara. Ah. Attention, ça chauffe. Plein de questions pour mieux vous découvrir et vous connaître encore de l'autre côté de la fourchette. Quel est le goût de votre enfance, chère Hélène ?
Les tomates de mon grand-père, parce qu'on avait, un très beau potager avec nos fraises, nos tomates, etc. Mais quand les tomates poussent vraiment au soleil, sans rien, avec une belle terre bien arrosée, ce sont des vraies tomates pour moi. D'ailleurs, je vous recommande de goûter la tomate heirloom, qui maintenant est une variété très, très goûtue. Mais la tomate de mon grand-père, on pouvait la manger juste avec un peu de sel et elle était délicieuse.
Et quand c'était la saison, pas hors sol, en plein hiver. Hein. Maintenant, c'est pas le moment d'acheter des tomates. Le premier plat que vous avez cuisiné ?
Les gnocchis.
Ah, les fameux.
Oui,
les gnocchis
avec
à la pomme de terre.
La bolo.
Votre plus beau repas, tiens, dans le sens inoubliable ?
Chaque année, pour mon anniversaire de mariage, on a une adresse un peu gastronomique où on va. Et à chaque fois, comme on connaît tout le monde, ils nous font découvrir des choses. Et ça, c'est pour moi, c'est une fois par an et c'est quelque chose d'exceptionnel. Quoi.
Joli rituel.
Mm-hmm.
Et votre pire repas ?
Oh, il y en a souvent, mais en fait, j'aime pas la malbouffe. Quoi. C'est-à-dire que même quand j'ai été très pauvre, j'ai toujours fait en sorte de manger un truc simple, mais vrai et bon.
Le plat que vous n'avez jamais mangé et que vous aimeriez essayer ?
Alors, j'ai fait des missions humanitaires où on m'avait proposé des insectes et j'ai pas eu le courage d'y goûter. Il paraît que ça se mange quand même, hein, que c'est pas si mauvais.
Ça n'a pas de goût.
Ça n'a pas de goût, ça croustille.
Ça sentait surtout, ça avait l'air de la friture. Quoi. Ça avait l'odeur de friture.
Et on met plein d'épices en général, donc on sent le goût des
épices.
Donc,
j'ai pas goûté. Peut-être que je me suis arrêtée à mes préjugés, mais j'ai pas beaucoup de préjugés. Après, je reconnais, j'ai jamais goûté de la cervelle, par exemple.
Vous n'êtes pas très tripe ?
Si, ma grand-mère faisait des tripes exceptionnelles. Mais je n'ai jamais mangé de tripes autre que celle de ma grand-mère. Et depuis qu'elle nous a quittés, je n'en ai jamais remangé.
Quel plat vous emmèneriez sur une île déserte, Hélène Ségara?
Ah, en fait, sur une île déserte, je ne serais pas malheureuse parce que moi, j'aime beaucoup les poissons grillés. Et j'irai moi-même avec ma fourchette attraper les oursins parce que j'adore les oursins.
Ça, c'est bon.
Oh là là.
Ah, le petit côté iodé des langues d'oursins comme ça.
Ah, oui.
Ah, ça, c'est délicieux.
Les pieds dans l'eau.
Mais pas l'oursin qui est dans l'océan Pacifique. Je parle de l'oursin qu'on a, nous, en Méditerranée, qui est petit et qui est vraiment goûtu. Par exemple, l'oursin de Sète ou de Marseille, il est magnifique.
Qui sont les invités de votre dîner idéal?
Écoutez, on pourrait citer plein d'artistes qui nous ont quittés, qui seraient merveilleux. On pourrait dire Bouddha, Jésus, on referait le monde. Mais il y a aussi des gens anonymes qui sont formidables autour de moi. Et puis, il y a des gens qui dédient leur vie tous les jours à faire du bien. Donc, cela m'intéresse beaucoup. J'ai envie de les inviter.
Les héros du quotidien. Voilà. À table avec les héros du quotidien, absolument. Votre adresse secrète?
C'est un monsieur qui m'a aidée à mes débuts. Quand je me suis installée à Paris, je crevais un peu de faim avec mon fils. J'habitais un tout petit appartement de 15 mètres carrés, avenue de Clichy. Et un jour, il a ouvert un restaurant éthiopien, j'étais au rez-de-chaussée, donc à côté de ma fenêtre. J'ai vu ce petit resto tout petit ouvrir, un resto éthiopien. Donc je suis passée, on a fait connaissance, et il m'a fait visiter les cuisines, il m'a fait goûter les plats qui mijotaient très longtemps. On mange avec les doigts dans des crêpes. Et c'est savoureux. Et ce monsieur m'a beaucoup aidée quand j'étais toute jeune. Et ça reste mon QG.
Comment il s'appelle?
Il s'appelle Salomon et le restaurant s'appelle Ménélik. Il est avenue de Clichy, rue Sauffroy.
Eh ben voilà, on prend bonne note. Et le mot de la fin, F-A-I-M?
Le mot de la fin, c'est la cuisine pour moi et manger, ça ne doit pas être une addiction, ça ne doit pas être quelque chose qui nous stresse. Par exemple, s'il y a des gens qui cuisinent dans le stress parce que c'est leur profession, ils ont des coups de bourre parfois dans les restaurants. Moi, j'ai la chance de cuisiner pour le plaisir, de prendre mon temps, ça me détend. Et la cuisine, pour moi, c'est ma manière de montrer aux gens que je les aime, de partager. À chaque fois qu'il y a une fête à la maison, un anniversaire, un Noël, un machin, je cuisine pendant des heures, je fais tous mes buffets moi-même et c'est mon plaisir.
La générosité de la cuisine. Merci Hélène Ségara d'avoir été notre invitée. Votre album s'appelle Karma, il sort au mois de mars. Et on vous retrouve au Trianon les 27 et 28 mai et ensuite en tournée. Merci d'être venu. Vous revenez quand vous voulez.
Grand plaisir.
Merci à mon équipe de m'avoir aidé à préparer cette émission. Merci Charlotte Langrand et Olivier Pouls.
Merci
à tout le monde.
Vous retrouverez les recettes sur europe1.fr. Même adresse pour vous abonner au podcast. C'est europe1.fr avec les recettes. La semaine prochaine, alors on va passer la ville de Tours à la casserole. Entre les rillons et les poires tapées, je peux vous dire qu'il y a de belles histoires à cuisiner. On va encore prendre des points. Et Anne-Elisabeth Lemoine sera notre invitée, une bonne vivante comme vous, Hélène Ségara. D'ici là, les amis, faites le marché, la cuisine et évidemment le reste aussi. Dans un instant, c'est Europe Midi avec Fabienne Lemoine. Bon week-end sur Europe 1.